RFI, il est 8h30 à Paris, 6h30 en temps universel. L'actualité africaine avec Nemo Ampis. Bonjour Nemo.
Bonjour Marion, bonjour à tous. Nous sommes à Bukavu dès le début de ce journal en ce dimanche de Pâques. Et alors que la ville est toujours contrôlée par la FCM23, les chrétiens vont-ils célébrer? Beaucoup ont en tête la situation compliquée entre fermeture des banques, de certains commerces et le manque de travail. Une forme d'impunité autour des forces de l'ordre au Cameroun, c'est ce que dénonce la société civile. Cette fois, elle réagit à la mort en garde à vue d'un jeune de 22 ans. Il s'agit d'un suicide, assure la police. Du jamais vu dans l'histoire judiciaire tunisienne, les avocats de la quarantaine de personnalités condamnées dans l'affaire dite du complot contre la sûreté de l'État accusent le coup et parlent d'une parodie de justice. Ils se mobilisent pour l'appel. Et puis le dossier de ce journal au Rwanda puis au Togo, où certaines associations tentent de sensibiliser les plus jeunes autour des questions d'éducation sexuelle. Comment célébrer en pleine situation de guerre? Une question que se posent de nombreux habitants dans l'est de la République démocratique du Congo en ce week-end pascal. Pâques est fêté par plus de 2 milliards de chrétiens dans le monde en mémoire de la résurrection de Jésus-Christ. Mais à Bukavu, par exemple, ville aux mains désormais du groupe armé FCM23, le cœur n'est pas vraiment à la fête. Sabine Mélé a pu se procurer quelques témoignages venus de la capitale du Sud Kivu.
Mère de 3 enfants, Anuarit a acheté quelques bouteilles de jus d'ananas et des beignets pour ses enfants. Même si les temps sont durs, pour elle, Pâques doit être fêtée.
C'est une fête très importante, mais compte tenu de la situation, nous allons manger ce que nous aurons trouvé. Auparavant, nous avions l'habitude d'organiser une grande fête avec des amis, la famille et des membres de notre église et de participer à la veillée pascale jusqu'au matin. Mais pour le moment, c'est difficile de les inviter à cause de la guerre et nous ne pouvons plus passer la nuit à l'église en raison de l'insécurité.
Depuis la prise de Bukavu par la FCM23, les banques sont fermées, ce qui complique la vie de la famille de Dieudonné, père de 7 enfants.
Nous n'avons plus d'argent, aucune banque ne fonctionne, il n'y a presque plus de travail et même les commerces ne tournent plus normalement. S'ils avaient au moins la capacité de rouvrir les banques.
Malgré toutes ces contraintes, le pasteur Élisée Boula, lui, veut profiter de la veillée pour ses 10 petits-enfants.
Je leur apporte des petites surprises comme des bonbons, des biscuits et même des ballons gonflables. Ils sont contents car les tout-petits ne savent rien de notre galère. Nous célébrons Pâques, mais c'est un peu comme si elle n'était pas là. J'espère que nous pourrons fêter normalement plus tard.
D'autres Bukaviens ont préféré passer ces moments de recueillement en méditant sur la victoire de la vie plutôt que sur la mort.
Week-end pascal à l'occasion duquel le cardinal Fridolin Ambongo, rappelant le contexte général du pays caractérisé par la morosité générale face à des crises humanitaires et sécuritaires sans précédent, a une nouvelle fois appelé les Congolais à accueillir, je le cite, avec confiance et ferveur, l'initiative du pacte social pour la paix et le vivre ensemble lancé par la CENCO et le CC, les églises catholiques et protestantes de RDC. Y a-t-il régulièrement des cas de torture dans les commissariats et gendarmeries du Cameroun? C'est ce que dénonce en tout cas l'organisation de la société civile Mandela Center. Elle réitère sa demande aux autorités d'agir et de prendre des mesures contre ce phénomène. Une énième sortie cette fois après la mort du jeune Armand Noubissi, 22 ans, décédé en garde à vue après avoir été accusé du vol d'une moto à Yaoundé. Plus de détails avec Amélie Tulé.
Une garde à vue de plus de 2 semaines et des soupçons de mauvais traitement. Pour Jean-Claude Fognaud, il faut une enquête. Selon le secrétaire exécutif de Mandela Center, la police cache la vérité en disant à la famille que le jeune homme s'est suicidé en cellule.
Selon l'article 12 de la Convention des Nations Unies contre la torture, il est de la responsabilité des autorités camerounaises d'ouvrir une enquête chaque fois qu'il y a une allégation, même s'il y a une rumeur d'acte de torture, pour faire la lumière sur cette situation.
Pas de commentaire de la délégation générale à la Sûreté nationale. Pour Cyril Roland-Béchon de l'ONG Nouveaux Droits de l'Homme, ce n'est pas un cas isolé.
Les questions de torture sont des questions toujours très présentes. On n'a presque jamais de réaction. Est-ce que ceci veut dire que la réalité du cas n'existe pas? C'est faux, le cas il est là.
Le bâtonnier Mba Eringba appelle chaque maillon de la chaîne judiciaire à appliquer le droit.
La torture dans les commissariats et les gendarmeries est une réalité. réalité, mais elle n'est pas systématique. Le problème, c'est que lorsqu'une action en justice est intentée contre un gendarme ou un policier, elle ne trouve jamais de solution. On a l'impression qu'on ne peut rien faire contre eux, ce qui témoigne d'un sentiment d'impunité et d'arrogance.
Du côté du gouvernement camerounais, on assure que ce sont des faits isolés qui font l'objet de sanctions lorsque les autorités en charge de la police et de la gendarmerie sont informées.
Que s'est-il passé à la prison de Mongo dans le centre du Tchad? Vendredi soir, une centaine de prisonniers se sont échappés. Dans leur fuite, ils se sont emparés d'armes, ce qui a mené à des échanges de tirs avec les gardiens. Le site d'information Tchad Info évoque 4 morts lors des affrontements pour 132 prisonniers évadés. Des chiffres toujours provisoires et non confirmés par les autorités. De 4 à 66 ans de prison, les peines sont tombées pour la quarantaine de personnalités impliquées dans l'affaire dite du complot contre la sûreté de l'État en Tunisie. De lourdes condamnations auxquelles s'attendaient les avocats, eux qui se mobilisent tout de même pour faire appel malgré le peu d'espoir. Ils dénoncent un procès politique et surtout une parodie de justice. La correspondance de Lilia Blaise à Tunis.
Samedi, les avocats de la défense dans l'affaire du complot, plus de 200, accusent encore le coup du verdict prononcé à l'aube. Maître Samir Dilou, qui avait déjà dénoncé les conditions dans lesquelles s'est déroulé le procès la veille, exprime son effarement face à ce jugement expéditif.
Mais ce qui est le plus choquant, c'est pas la sévérité du verdict, mais plutôt qu'il n'y a pas eu procès. Tout n'a duré que 30 secondes. Donc je crois que c'est pas trop de dire. C'est inédit, c'est du jamais vu.
Les peines les plus lourdes concernent ceux considérés comme le cerveau du complot, l'homme d'affaires Kamel El Tayef, condamné à 66 ans de prison, le militant pro-démocratie Hayem Turki, condamné à 48 ans, et l'ancien ministre de la Justice et député, membre du parti islamiste Ennahda, Nourdin Bahiri, qui écope de 43 ans de réclusion. Pour l'avocate Hajer Chebbi, il faut se mobiliser pour l'appel du jugement.
L'espoir, il est très minime, voire inexistant, mais il est là. Tant qu'il est là, tant qu'on peut le faire, on va se battre jusqu'au bout. On a été honorés de pouvoir les représenter en tant qu'avocats et on continuera à le faire tant qu'ils seront en prison, injustement.
Tous les accusés en liberté ont été également condamnés et pour ceux en Tunisie, ils risquent l'arrestation en fonction de la décision en appel. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Miser sur le solaire pour réduire les délestages et sortir du thermique. C'est le pari du gouvernement comorien qui a inauguré une 5e centrale à Ouachili, un projet mené par la société libanaise Ecosys. Le pays franchit ainsi le cap de la 20aine de mégawatts installés. Objectif que près de la moitié des énergies soient des énergies renouvelables d'ici 2030. Pourtant sur le terrain, les difficultés des habitants sont nombreuses. Électricité instable, factures élevées. Et manque de batterie. RFI Moroni, Abdallah Zembaba.
C'est en présence du chef de l'État, Azali Assoumani, que la centrale solaire de Ouachili a été inaugurée. 6,3 MW, plus de 10 000 panneaux, a dit Younes, ingénieur chez Ecosys.
Nous avons aussi employé temporairement environ 250 travailleurs locaux. Nos experts les ont formés au système électromécanique. C'est ainsi que nous avons contribué au développement de cette belle île.
Financé par les Émirats via le fonds d'Abu Dhabi, le projet s'inscrit dans le plan Comore émergent. Aboubakar Saïdan Ali, ministre de l'Énergie.
Cette centrale est bien plus qu'une infrastructure énergétique. Elle incarne la vision d'un pays résolument tourné vers l'avenir où chaque citoyen, du plus modeste village à la ville la plus dense, a droit à une énergie propre, fiable et accessible.
Mais sur le terrain, des doutes subsistent. Al-Haldur réside tout près du centre.
Ici, il y a des coupures. Là maintenant, par exemple, en pleine cérémonie, il n'y a pas de courant. La fourniture n'est pas stable. J'ai guère d'espoir de voir la facture baisser. La Sonelec semble davantage s'employer à compliquer la vie de ses clients qu'à les soulager.
Le président de la République reste optimiste quant au mix énergétique, solaire et thermique. Mais sur l'île, les coupures persistent malgré les promesses. Abdelham Zembaba Mourouni, RFI.
Je viens démentir l'information concernant l'envoi de troupes équato-guinéennes en Russie pour combattre en Ukraine. C'est faux. réaction hier de Tedingema, vice-président équato-guinéen sur X après une information sortie dans la presse. Malabo assure que les jeunes qui font le voyage ne partent pas à la guerre, mais je le cite, se forment dans les prestigieuses universités de la Fédération de Russie avant d'en revenir pour, je le cite encore, contribuer à la défense de la patrie. Le dossier de ce journal consacré aux grossesses précoces. On passe d'abord par le Rwanda où un projet de loi est actuellement étudié pour faire passer de 18 à 15 ans l'âge d'accès à la contraception et cela sans le consentement d'un adulte. Objectif, prévenir les cas et faciliter l'accès aux soins pour les plus jeunes. Reportage à Kigali pendant une consultation menée avec les coordinateurs de centres de jeunesse. C'est signé Lucie Mouillot.
Espace polyvalent avec des programmes d'employabilité et d'entrepreneuriat, les centres de jeunesse offrent pour certains des services de santé. Aimable Ruigamba, coordinateur à Moussanze, est régulièrement confronté aux difficultés des grossesses précoces.
Parfois, elles nous disent qu'elles sont mises à l'écart par leur famille. Elles ne sont pas dans la capacité de s'occuper de leur enfant. Elles abandonnent souvent l'école à cause de la grossesse et de la pauvreté.
Pendant la réunion, l'ONG HDI forme les coordinateurs sur les questions de santé sexuelle et reproductive et les risques liés aux grossesses précoces. Diana Keza, conseillère de l'organisation.
Les coordinateurs sont au quotidien avec des adolescents hors du système scolaire. Et la jeunesse va plus facilement dans les centres de jeunesse que de santé par peur d'être stigmatisée. Aller dans un centre de jeunesse n'éveille pas les soupçons.
L'organisation participe aux discussions parlementaire sur le projet de loi pour abaisser à 15 ans l'accès indépendant à une contraception. Denis Teta est la responsable politique et plaidoyer.
L'année dernière, plus de 22 000 filles entre 15 et 19 ans ont accouché et on voit que les chiffres augmentent. L'activité sexuelle est de plus en plus précoce. Pour freiner cette tendance, il faudrait fournir de l'information et des conseils que les ados puissent prendre des décisions informées sur leur santé.
Une proposition de loi similaire avait déjà été étudiée en 2022 à l'initiative de députés, mais rejetée pour des raisons culturelles et religieuses. Cette fois-ci, le projet est porté et défendu par le ministère de la Santé. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Et après le Rwanda, le Togo, on vous en a parlé récemment, cette affaire qui a fait grand bruit. 43 élèves renvoyés après avoir eu des rapports sexuels avec des camarades entraînant des grossesses. Cela a relancé le débat sur ce problème en milieu scolaire au sein de l'Association togolaise pour le bien-être familial. On assure qu'un travail d'éducation se fait avec les acteurs éducatifs et il commence à porter ses fruits, dit-on. Mais l'effort doit être poursuivi, affirme Hervé Wanyeni, chef des programmes jeunesse à la TBF.
Si nous prenons de l'année scolaire de 2020 à 2021, nous avons enregistré 2407 grossesses et il faut retenir pour la dernière année de 2023 à 2024, nous avons obtenu 1883 grossesses. C'est dire que le phénomène baisse, mais il faut avouer qu'une seule grossesse en milieu scolaire est une grossesse de trop. Nous renforçons les capacités des acteurs en charge de l'éducation des jeunes, à savoir les enseignants, les leaders religieux, les parents et les jeunes eux-mêmes. Lorsque dans cette chaîne, un maillon ne joue pas son rôle, vous convenez avec moi qu'il y aura des répercussions sur le jeune. Voilà. C'est des besoins individuels de chaque jeune. Et c'est pourquoi nous exhortons les parents à jouer leur rôle, à subvenir aux besoins élémentaires et vitaux de l'enfant afin d'éviter que ces jeunes deviennent des vulnérables.
Signé Lucie Mouillot à Kigali et Peter Sasudogbe à Lomé. Enfin, un mot de sport, un samedi riche pour les amateurs de football sur le continent. Paris Chambu, en revanche, ont joué les deux demi-finales allées de la Ligue des Champions. Deux rencontres au score nul et vierge entre les Mamelodi Sundowns et les Al Ahly du Caire, double tenant du titre, et entre les Orlando Pirates et le FC Pyramids. Rendez-vous la semaine prochaine pour les matchs retour. Ce sera cette fois en Égypte. 0-0 également entre les U17 marocains et maliens, sauf que pour la finale de la CAN, on va jusqu'au tir au but. Succès des Lionceaux de l'Atlas à domicile sur les jeunes aiglons, c'est le premier titre du Maroc lors d'une Coupe d'Afrique des Nations U17. La suite sur RFI, c'est avec Marion Casanova.